Le livre de Joël et l'Église adventiste du septième jour laodicéenne, numéro 29.
Numéro 29.
La cinquième prophétie messianique dans le livre de Matthieu est le jalon de la déception et de la mort. Le 18 juillet 2020, la fausse prédiction de la destruction de Nashville a tué Élie et Moïse.
Le cinquième jalon messianique est la déception du 18 juillet 2020.
Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par le prophète Jérémie. À Rama, on a entendu une voix, des lamentations, des pleurs et un grand deuil. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée, parce qu'ils ne sont plus. Matthieu 2, 17-18.
Prédiction.
Ainsi parle le Seigneur. Une voix s'est fait entendre à Rama, des lamentations et des pleurs amères. Rachel pleure ses enfants. Elle refuse d'être consolée à cause de ses enfants, parce qu'ils ne sont plus. Jérémie 31, 1, 15.
Moïse et Élie sont mis à mort dans les rues de Sodome et d'Égypte. La dernière déclaration de l'Ancien Testament indique qu'Élie viendra avant le grand et redoutable jour du Seigneur. Ce jour redoutable commence lorsque Michel se lève dans Daniel 12 et déclare, dans Apocalypse 22, que celui qui est juste et celui qui est injuste demeureront dans cet état pour l'éternité.
Et en ce temps-là se lèvera Michel, le grand prince qui se tient pour les enfants de ton peuple. Et il y aura un temps de détresse tel qu'il n'y en a jamais eu depuis qu'il existe une nation jusqu'à ce temps-là. Et en ce temps-là, ton peuple sera délivré, tous ceux qui seront trouvés inscrits dans le livre. Daniel 12, 1.
Que celui qui est injuste soit encore injuste, et que celui qui est souillé soit encore souillé, et que celui qui est juste soit encore juste, et que celui qui est saint soit encore saint. Apocalypse 22, 11.
Élie doit apparaître avant la clôture de la période de probation, et il est mis à mort et ressuscité dans Apocalypse 11, juste avant la clôture de la période de probation. Il est ressuscité et présente son message jusqu'à la clôture de la période de probation, où a lieu alors une autre résurrection, des justes et des méchants.
Et beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et le mépris éternel. Daniel 12, 2.
Cette résurrection spéciale est suivie de la seconde venue du Christ, où les morts justes sont ressuscités, puis de 1000 ans durant lesquels les saints jugent les perdus. À la fin des 1000 ans, il y a une autre résurrection et la troisième venue du Christ. La succession des résurrections prophétiques comprend la résurrection de la bête papale, mais chacune de ces résurrections est un sujet spécifique de la parole prophétique de Dieu. Le 18 juillet 2020, le mouvement laodicéen des 144 000 s'est suicidé en se rebellant contre l'ordre du Christ, interdisant les applications temporelles au-delà de 1844. On entendit alors une voix à Rama, signifiant l'orgueil et l'exaltation du chrétien de soi. Rachel, qui signifie « bonne voyageuse », est en deuil, parce que Moïse et Élie ne sont pas. Et, plus important encore, ils ne peuvent pas être consolés. Ils n'ont aucun réconfort, et le Saint-Esprit est le Consolateur, qui devait être envoyé quand la voie dans le désert a commencé en juillet 280. Ces choses se produisent juste avant la fermeture du temps de grâce et, selon l'Apocalypse, juste avant que le temps de grâce ne se ferme, la révélation de Jésus-Christ est décelée. Ce décelage est ce qui ressuscite Moïse et Élie, qui sont aussi Rachel, la bonne voyageuse, qui pleurait et se lamentait pour ses enfants et ne pouvait être consolée. Son deuil se change en joie lorsque ses enfants sont ressuscités.
Et il me dit, « Ne scelle pas les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. » Apocalypse 22, 10.
Moïse et Élie étaient morts dans les rues de Sodome et d'Égypte. Et, tout comme pour le Christ, les 144 000 seraient appelés hors d'Égypte lorsque le rassemblement commença en juillet 2023.
Le sixième jalon messianique est l'appel à sortir d'Égypte en juillet 2023.
Et il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par le prophète. D'Égypte j'ai appelé mon fils. Matthieu 2,15.
Prédiction.
Quand Israël était enfant, je l'ai aimé. Et j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Osée 11,1.
Dans la rue égyptienne, des morts. Une voix céleste venue du désert appelle à la vie la vallée des ossements morts d'Ézéchiel. Cette voix a commencé à retentir en juillet 2023.
Et après les 3 jours et demi, l'esprit de vie venant de Dieu entra en eux. Et il se tint sur leurs pieds. Et une grande crainte tomba sur ceux qui les virent. Et ils entendirent une grande voix venant du ciel leur disant « Montez ici !» Et ils montèrent au ciel dans une nuée, et leurs ennemis les virent. Apocalypse 11, 11, 12.
Dieu appelle son fils hors d'Égypte et il a aussi appelé Moïse hors d'Égypte, car Moïse, en tant qu'Alpha, et Jésus, en tant qu'Oméga, représentent l'expérience des 144 000 qui chantent le cantique de Moïse et de l'agneau. ce cantique inclut l'appel hors d'Égypte. Dans Ézéchiel, deux étapes sont représentées, lesquelles avaient été préfigurées par les deux étapes de la création d'Adam. D'abord, le corps est formé, puis le souffle de vie est insufflé dans le corps et celui-ci vit. Dans l'Apocalypse chapitre 11, la première étape est que l'Esprit de Dieu entre en ceux qui ont été tués, et ils se tiennent alors sur leurs pieds. Lorsqu'ils se tiennent debout, ils sont l'armée de Dieu. Ce qui véhicule l'Esprit au chapitre 11 est représenté par la première prophétie d'Ézéchiel, la voix dans le désert est le message prophétique accompagné du Saint-Esprit. L'Évangile selon Matthieu contient les 12 chapitres qui sont l'oméga des 12 chapitres de la Genèse. Ensemble, ils constituent deux témoins représentant l'alliance avec les 144 000. Ces hommes et ces femmes sont scellés pour l'éternité dans une relation où la divinité se combine à leur humanité. Ils deviennent le signe pour les ouvriers de la 11e heure.
L'œuvre du Saint-Esprit consiste à convaincre le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Le monde ne peut être averti qu'en voyant ceux qui croient à la vérité sanctifiés par la vérité, agissant selon des principes élevés et saints, montrant dans un sens noble et élevé la ligne de démarcation entre ceux qui gardent les commandements de Dieu et ceux qui les foulent aux pieds. La sanctification de l'esprit signale la différence entre ceux qui ont le sceau de Dieu et ceux qui observent un jour de repos contrefait. Lorsque l'épreuve viendra, il sera clairement montré ce qu'est la marque de la bête. C'est l'observance du dimanche. Ceux qui, après avoir entendu la vérité, continuent à regarder ce jour comme saint, portent la signature de l'homme de péché qui a pensé changer les temps et la loi. Bible Training School, 1er décembre 1903.
L'étendard des 144 000, lorsqu'ils sont appelés au ciel au chapitre 11 de l'Apocalypse, se manifeste par le fait qu'ils sont d'abord appelés hors d'Égypte, là où ils avaient été mis à mort. Une voix venant du désert les appelle à sortir d'Égypte, afin qu'ils soient le signe pour les ouvriers de l'onzième heure. Leur résurrection en 2024 est aussi représentée comme une naissance et comme un réveil, selon l'illustration retenue. Du point de vue de la naissance, ils sont ceux qui accomplissent la parabole des 10 vierges. En ce sens, leur naissance est une naissance virginale, et ils sont le signe.
Le 7e jalon messianique est 2024.
Or tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie « Dieu avec nous ». Matthieu 1, 22, 23.
Prédiction.
C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, une Vierge concevra, enfantera un fils et lui donnera le nom d'Immanuel. Ésaïe 7, 14.
Il y avait des signes dans l'histoire de Moïse et du Christ, comme il y en avait dans l'histoire millérite. Dans les derniers jours, l'adventisme laodicéen recherchera un signe, et leur seul signe, c'est le signe de Jonas. Il y a aussi un signe pour ceux qui seront ressuscités en 2024. Leur signe, ce sont les sept temps du Lévitique 26.
Et ceci sera pour toi un signe. Vous mangerez cette année ce qui pousse de soi-même, et la seconde année ce qui repoussera de la même souche, et la troisième année vous sèmerez, vous moissonnerez, vous planterez des vignes et vous en mangerez des fruits. Et le reste qui aura échappé de la maison de Judas prendra de nouveau racine en bas et portera du fruit en haut. Car de Jérusalem sortira un reste, et du mont Sion sortiront des rescapés. Le zèle du Seigneur des armées fera cela. 2 Rois 19, 29, 31. Et si vous dites, que mangerons-nous la septième année? Voici, nous ne sèmerons pas et nous ne rentrerons pas notre récolte. Alors je ferai reposer ma bénédiction sur vous la sixième année et elle produira du fruit pendant 3 ans. Et vous sèmerez la 8e année et vous mangerez encore des vieux fruits jusqu'à la 9e année. Jusqu'à ce que sa récolte arrive, vous mangerez des anciennes provisions. Lévitique 25, 20 et 22.
Ceux qui échappent sont également présentés comme les bannis d'Israël, et ils furent chassés par leurs frères qui les haïssaient. Leurs frères les chassèrent, car ils les haïssaient, parce qu'ils ne pouvaient pas réfuter la vérité du sabbat représentée par les 7 temps de Moïse.
L'Éternel rebâtit Jérusalem. Il rassemble les exilés d'Israël. Psaume 414 en T2.
Le Seigneur a commencé à rassembler le reste en juillet 2023, et le reste est les exilés d'Israël. En juillet 2023, il a étendu sa main une seconde fois pour rassembler ses exilés. Il a étendu sa main en 1849 une seconde fois, en amont de la lumière Oméga, des 7 temps de Moïse en 1856. La lumière Alpha était représentée par la première découverte prophétique de Miller, les 7 temps de Moïse.
En ce jour-là, il y aura une racine de Jessé, qui se dressera comme un étendard pour les peuples. Les nations se tourneront vers elle, et son repos sera glorieux. Il arrivera, en ce jour-là,
que le Seigneur étendra de nouveau sa main, pour la seconde fois, afin de recouvrer le reste de son peuple, qui sera resté, de la Syrie, et de l'Égypte, et de Patros, et de Cush, et d'Élam, et de Shinar, et de Ramat, et des îles de la mer. Il dressera un étendard pour les nations, rassemblera les bannis d'Israël, et réunira les dispersés de Juda, des quatre coins de la terre. Ésaïe 11, 10, 12.
Quand les exclus seront élevés comme le signe, ils rassembleront alors les ouvriers de la onzième heure, qui ne peuvent être avertis que par la vue de la différence entre ceux qui ont le sceau de Dieu et ceux qui observent un faux jour de repos. Le signe pour les ouvriers de la onzième heure, ce sont les exclus, et le signe des exclus est l'énigme consistant à manger cette année ce qui pousse de soi-même, et l'année suivante ce qui en poussera, et la troisième année, semer, moissonner, planter des vignes et mangez-en les fruits. L'énigme du passage est qu'il représente les sept fois du Lévitique 25 et 26. Le sabbat où la terre se repose est une composante de l'alliance qui détermine la bénédiction ou la malédiction, selon que l'on observe ou rejette le repos de la septième année pour la terre promise. Le signe des 144 000 est la composante de la triple promesse de l'alliance qui est représentée par le sabbat de la septième année de la terre. La vérité fondamentale des sept fois identifie l'un des trois éléments de l'alliance, qui promet un cœur et un esprit nouveau, un corps nouveau, ainsi qu'une terre où vivre. Le sabbat du septième jour est le signe entre Dieu et son peuple, mais ce sabbat du septième jour représente aussi la responsabilité de l'alliance confiée à l'ancien Israël. Ils devaient être les gardiens, les dépositaires des dix commandements. Sir White affirme clairement que l'Israël moderne, en 1844, en harmonie avec l'ancien Israël, a été constitué dépositaire non seulement des dix commandements, mais aussi de la parole prophétique de Dieu.
Dieu a appelé son Église en santé, comme il appela l'ancien Israël, à se tenir comme une lumière sur la terre. Par le puissant couperet de la vérité, les messages des premiers, deuxième et troisième anges, il les a séparés des églises et du monde, afin de les amener dans une proximité sacrée avec lui-même. Il en a fait les dépositaires de sa loi et leur a confié les grandes vérités de la prophétie pour ce temps. Comme les saints oracles confiés à l'ancien Israël, celle-ci constitue un dépôt sacré qui doit être communiqué au monde. Les trois anges d'Apocalypse 14 représentent le peuple qui accepte la lumière des messages de Dieu et s'avance comme son agent pour faire retentir l'avertissement à travers toute l'étendue de la terre. Testimonie, volume 5, page 3455.
Les dix commandements sont représentés par le signe du sabbat du septième jour, et les lois de la prophétie sont représentées par le sabbat de la septième année. L'adventisme du septième jour laodicéen sera grandement embarrassé lorsqu'il abandonnera le navire et commencera à adorer le soleil. Mais le commandement du sabbat qu'il a d'abord rejeté est les sept fois de Moïse. Pour entrer dans la terre promise, le peuple de Dieu doit comprendre et observer non seulement le sabbat du septième jour, mais aussi l'année sabbatique. L'adventisme laodicéen ne peut pas réfuter cette vérité biblique, bien qu'il la couvre de mensonges. C'est la racine de leur haine qui les pousse à exclure ceux qui seront l'étendard.
La plupart des membres de la famille de mon père croyaient pleinement à l'avènement. Et pour avoir rendu témoignage à cette glorieuse doctrine, sept d'entre nous furent en même temps exclus de l'Église méthodiste. À cette époque, les paroles du prophète nous étaient extrêmement précieuses. « Vos frères qui vous haïssaient, qui vous ont chassés à cause de mon nom, ont dit « Que le Seigneur soit glorifié, mais il apparaîtra pour votre joie, et ils auront honte. » Ésaïe 66, 5. À partir de cette époque, jusqu'en décembre 1844, mes joies, mes épreuves et mes déceptions furent semblables à celles de mes chers amis adventistes autour de moi. À ce moment-là, je rendis visite à l'une de nos sœurs adventistes et le matin, nous nous agenouillâmes autour de l'autel familial. Ce n'était pas un moment particulièrement exaltant et nous n'étions que cinq présentes, toutes des femmes. Pendant que je priais, la puissance de Dieu descendit sur moi comme je ne l'avais jamais ressentie auparavant. Je fus enveloppée d'une vision de la gloire de Dieu et il me sembla que je m'élevais de plus en plus au-dessus de la terre. On me montra quelque chose des voyages du peuple adventiste vers la Sainte Cité, comme relaté ci-dessous. Premières écrits, 13.
La première vision d'Ellen White fut donnée alors que cinq femmes, représentant cinq vierges sages, étaient réunies, après avoir été rejetées par leurs frères qui les haïssaient. Ils les haïssaient à cause de la doctrine du second avènement, préfigurant ainsi les exclus des derniers jours.
J'ai vu que l'Église de nom et les adventistes de nom, comme Judas, nous trahiraient auprès des catholiques afin d'obtenir leur influence pour combattre la vérité. Les saints seront alors un peuple obscur, peu connu des catholiques, mais les églises et les adventistes de nom, qui connaissent notre foi et nos coutumes, car ils nous haïssent et à cause du sabbat, qu'ils ne pouvaient réfuter, trahiront les saints et les dénonceront aux catholiques comme des personnes qui méprisent les institutions du peuple, c'est-à-dire qu'ils observent le sabbat et délaissent le dimanche. Alors les catholiques enjoignent aux protestants d'aller de l'avant et de promulguer un décret selon lequel tous ceux qui ne voudront pas observer le premier jour de la semaine, au lieu du septième jour, seront mis à mort. Et les catholiques, dont le nombre est grand, se tiendront aux côtés des protestants. Les catholiques donneront leur pouvoir à l'image de la bête. Et les protestants agiront comme leur mère avait agi avant eux, pour détruire les saints. Mais avant que leur décret ne porte ses fruits, les saints seront délivrés par la voix de Dieu. Spalding and McGann, 1-2.
Les adventistes nominaux, c'est-à-dire de nom seulement, comme Judas, nous livreraient aux catholiques. Ils l'ont fait parce qu'ils haïssaient les parias à cause du sabbat. Les adventistes nominaux professent observer le sabbat du septième jour, donc il ne peut pas s'agir du sabbat auquel il est fait référence. Ils haïssent les parias, car ils savent qu'ils ne peuvent pas réfuter la vérité fondamentale des sept temps de Moïse, qui fut la compréhension alpha d'Élie en la personne de William Miller.
Dieu ne nous donne pas un nouveau message. Nous devons proclamer le message qui, en 1843 et 1844, nous a fait sortir des autres églises. Review and Herald, 19 janvier 1905. Tous les messages donnés de 1840 à 1844 doivent être présentés avec force maintenant, car beaucoup de personnes ont perdu leur repère. Les messages doivent être adressés à toutes les églises. Manuscript Release, volume 21, 450. Les vérités que nous avons reçues en 1841, 42, 43 et 44 doivent maintenant être étudiées et proclamées. Manuscript Releases, volume 15, 361. L'avertissement a été donné. Rien ne doit être admis qui puisse ébranler le fondement de la foi sur lequel nous bâtissons depuis que le message est venu en 1842, 1843 et 1844. J'ai été dans ce message, et depuis lors je me tiens devant le monde, fidèle à la lumière que Dieu nous a donnée. Nous n'avons pas l'intention de retirer nos pieds de la plateforme sur laquelle ils ont été placés, tandis que jour après jour, nous cherchons le Seigneur avec une prière fervente, recherchant la lumière. Pensez-vous que je pourrais renoncer à la lumière que Dieu m'a donnée? Elle doit être comme le rocher des siècles. Elle m'a guidée depuis le moment où elle m'a été donnée. Review and Herald, 14 avril 1900.
Judas n'est pas un symbole du Sanhédrin composé de Sadducéens et de Pharisiens. Judas était l'un des 12 disciples. Il faisait partie de l'épouse de l'Alliance que le Christ était sur le point d'épouser à la Pentecôte. La trahison contre les exclus vient de Judas, l'église adventiste du septième jour laodicéenne. Elle est représentée par de nombreux symboles, tels que les Lévites, qui sont rejetés par le messager de l'Alliance, dont Malachie 3. Les Lévites sont séparés lors de cette purification, et leur nombre est de 25, qu'ils soient fidèles ou infidèles. Les Lévites sont purifiés avant d'être présentés en offrande, comme autrefois.
Il s'assiera comme un fondeur et un purificateur d'argent. Il purifiera les fils de Lévi et les épurera comme l'or et l'argent, afin qu'ils offrent au Seigneur une offrande selon la justice. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable au Seigneur, comme aux jours anciens, comme aux années d'autrefois. Malachie 3, 3, 4.
Les Lévites sont l'offrande, car ils reflètent parfaitement le caractère du Christ, qui est la grande offrande. Lorsque ces 25 Lévites sont élevés comme une offrande, les 25 faux Lévites se prosternent devant le soleil dont Ézéchiel eut.
Judas ne représente pas seulement un Lévite méchant, mais il est aussi un prêtre méchant qui a été préparé pendant 30 ans, comme le représentent les 30 pièces d'argent de Judas.
Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, fut pris de remords et rapporta les 30 pièces d'argent aux grands prêtres et aux anciens en disant « J'ai péché en livrant le sang innocent. » Mais ils dirent « Qu'est-ce que cela nous fait ? À toi d'y voir. » Alors il jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Matthieu 27, 3, 5.
Les 30 pièces d'argent que Judas a jetées représentent le messager de l'Alliance rejetant, purgeant, plier des Lescories. L'argent contrefait, dans Malachie 3. Ce sacerdoce impie était représenté par la rébellion de Corée, Dathan et Abiram, et par les rebelles de 1888. Le sacerdoce impie est englouti lorsque les États-Unis, la bête de la terre, ouvrent la bouche. Alors, le feu détruit leurs partisans lors de la pleine effusion de la pluie de l'arrière-saison, qui commence avec la loi du dimanche. La naissance virginale comme signe au temps du Christ représente le signe des vierges sages, dans les derniers jours. Durant cette période, le Sanhèdre, l'église adventiste du septième jour laodicéenne, cherchera un signe, mais sera incapable de voir le seul signe donné à Laodicée. Le signe pour la grande foule, les ouvriers de la 11e heure, consiste à voir des hommes et des femmes observer le sabbat du 7e jour pendant la période d'épreuve de la loi du dimanche. Le signe du reste, dans sa controverse avec l'ancien peuple de l'Alliance, est le sabbat de la 7e année, représentant les fondements de l'adventisme, identifié comme le pilier central des deux tables sacrées d'Abacuc. Le signe donné à l'adventisme laodicéenne est le signe de Jonas, qui est abordé dans le dialogue entre le Christ et Pierre.
Lorsque Jésus arriva dans la région de Césarée de Philippe, il interrogea ses disciples. « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres Élie, et d'autres Jérémie, ou l'un des prophètes. » Il leur dit, « Et vous, qui dites-vous que je suis ?»
Et Simon-Pierre répondit et dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus répondit et lui dit, « Heureux es-tu, Simon Barjona, car la chair et le sang ne te l'ont pas révélé, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis aussi que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Église, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Et je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. »
Alors il recommanda à ses disciples de ne dire à personne qu'il était Jésus le Christ. Matthieu 16, 13 et 20.
Le signe pour le Sanhédrin et donc pour l'adventisme est le signe de Jonas. Simon par Jona est introduit dans le passage comme symbole d'un homme de l'Alliance, car son nom est sur le point d'être changé. Le nom d'Abraham a été changé au moment de l'Alliance. Le nom de Saül a été changé en Paul. Le nom de Jacob a été changé en Israël. Ces trois témoins établissent que, lorsqu'on change le nom d'un personnage biblique, cela désigne un homme de l'Alliance et, par conséquent, typifie le dernier peuple de l'Alliance, à savoir les 140 êtres de mille. Ces trois témoins établissent aussi que le nom d'un homme de l'Alliance représente le symbolisme prophétique associé à la personne dont le nom est changé. Saül signifie « choisi », car il a été choisi pour porter l'Évangile aux païens. Son nom a été changé en Paul, signifiant « petit », car, à ses propres yeux, il était le plus petit des apôtres, puisqu'il avait persécuté l'Église de Dieu. Jacob, le supplanteur, a été changé, de nom comme d'expérience, en un vainqueur, ce que signifie Israël. Le nom de Pierre était Simon, signifiant « celui qui entend », et Barjona, signifiant « fils de Jonas ».
Pierre représente la dernière génération de Jonas, car il était le fils de Jonas. Jonas signifie « colombe », et Simon est celui qui a entendu le message de la colombe, et Simon Barjona avait entendu le message de l'onction de Jésus, lorsqu'il fut baptisé et devint Jésus-Christ. Et l'Esprit Saint descendit sous la forme d'une colombe. Le message de Jonas était le message de la colombe qui représentait l'onction de Jésus avec puissance lors de son baptême. Le message de Jonas était représenté par le fait que Jonas fut 3 jours dans le ventre d'une baleine. Ces 3 jours sont ceux qui vont de la Pâque à la fête des prémices, qui sont préfigurés par le baptême du Christ et par le séjour de Jonas dans le ventre de la baleine.
Le signe de Jonas est le signe de l'onction du Christ lors de son baptême, qui préfigure la descente de l'ange de l'Apocalypse 18 le 11 septembre. Le 11 septembre a inauguré un processus de mise à l'épreuve en 3 étapes, représenté par les 3 jours de Jonas. Ces 3 étapes sont aussi illustrées dans l'histoire millérite. Le 11 août 1840 a marqué l'épreuve du premier ange, le 19 avril 1844, celle du deuxième ange, et le 22 octobre 1844, la 3e épreuve. Ces 3 étapes représentent le 11 septembre, le 18 juillet 2020 et la loi du dimanche.
Au moment de la loi du dimanche, Jonas est recraché de la bouche d'un poisson, exactement là où le Christ recrache Laodicée de sa bouche. Là même où l'ânesse de Balaam ouvre la bouche et parle. Là où Zacharie, le père de Jean-Baptiste, parle. Et là aussi où les États-Unis parlent comme un dragon. Jonas donne alors l'avertissement final au monde en tant que symbole de ceux qui ont été ressuscités avec Moïse et Élie en 2024. Ces âmes sont mortes dans les rues de Sodome et d'Égypte et sont par la suite ressuscitées comme la puissante armée d'Ézéchiel. À leur résurrection, elles deviennent le signe de Jonas, car ils représentent ceux qui sont morts et ressuscités pour donner le dernier message à Ninive. Jonas dans le ventre de la baleine, Daniel dans la fosse aux lions, Jean dans un chaudron d'huile bouillante représentent les 144 000 qui ont vécu une mort et une résurrection symbolique. L'onction du 11 septembre menant à la résurrection de la puissante armée d'Ézéchiel représente le baptême du Christ menant à sa résurrection.
Les pharisiens ainsi que les sadducéens s'approchèrent et pour l'éprouver, lui demandèrent de leur montrer un signe venant du ciel. Il leur répondit : « Le soir, vous dites, il fera beau car le ciel est rouge.
et le matin, il fera mauvais aujourd'hui, car le ciel est rouge et menaçant. Hypocrite, vous savez discerner l'aspect du ciel, mais ne pouvez-vous pas discerner les signes des temps ? Une génération méchante et adultère cherche un signe. Il ne lui sera donné d'autre signe que le signe du prophète Jonas. Et il les quitta et s'en alla. Matthieu 16, 1-4.
Le miracle culminant fut la résurrection de Lazare.
Intardant à venir auprès de Lazare, le Christ avait un dessein de miséricorde envers ceux qui ne l'avaient pas reçu. Il tarda, afin qu'en ressuscitant Lazare d'entre les morts, il pût donner à son peuple obstiné et incrédule une preuve supplémentaire qu'il était bien la résurrection et la vie. Il répugnait à renoncer à tout espoir pour ce peuple, ces pauvres brebis errantes de la maison d'Israël. Son cœur se brisait à cause de leur impénitence. Dans sa miséricorde, il résolut de leur donner une preuve de plus qu'il était celui qui restaure, celui qui seul pouvait mettre en lumière la vie et l'immortalité. C'était là un témoignage dont les prêtres ne pourraient pas fausser le sens. Telle était la raison de son retard à se rendre à Béthanie. Ce miracle suprême, la résurrection de Lazare, devait apposer le sceau de Dieu sur son œuvre et sur l'affirmation de sa divinité. Le désir des âges, 503 œuvres, 500 anfinf.
Le Christ tarda avant de ressusciter Lazare. Et Lazare ne fut pas seulement le miracle couronnant, il fut aussi le sceau à poser sur l'œuvre de Dieu. Dans ce passage, le signe de Jonas est le seul signe pour la génération adultère et perverse. Il est important de voir que le moment du processus de scellement est très précis. Dans le passage que nous abordons, où le nom de Pierre est changé, il nous est indiqué qu'à partir de ce moment, Jésus commença à révéler qu'il devait être mis à mort. Pourtant, dans le dernier verset, Matthieu rapporte « Alors il ordonna à ses disciples de ne dire à personne qu'il était Jésus le Christ. » Puis, au verset suivant, il rapporte « Dès lors, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il devait se rendre à Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être mis à mort et ressuscité le troisième jour. » Le passage commence avec Jésus qui demande qui les hommes pensent qu'il est. Puis il pose une question complémentaire où il demande aux disciples qui eux pensent qu'il est.
Lorsque Jésus arriva dans la région de Césarée de Philippe, il demanda à ses disciples « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Ils répondirent « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres Élie, et d'autres Jérémie, ou l'un des prophètes. » Il leur dit « Mais vous, qui dites-vous que je suis ?» Matthieu 16, 13, 15.
Quand Pierre répond, il reconnaît que Jésus était le Christ et le Fils du Dieu vivant. Le mot « Christ » est l'équivalent grec du mot hébreu « Messie ». Jésus pose la question de savoir qui il est et amène les disciples à reconnaître qu'il est le Messie. Mais il les délinforme aussitôt qu'ils ne doivent le dire à personne. À partir de l'an 20, il commença à enseigner qu'il accomplirait les 23 repères dans les trois derniers chapitres de Matthieu. Mais il était nécessaire que les vérités associées au Christ soient dévoilées de manière progressive, étape par étape.
Nous reprendrons ces jalons messianiques dans le prochain article.
La lumière alpha du troisième ange.
À l'automne 1846, nous commençâmes à observer le sabbat biblique et à l'enseigner et à le défendre. Mon attention fut d'abord attirée sur le sabbat, alors que je me trouvais en visite à New Bedford, dans le Massachusetts, plutôt la même année. J'y fis la connaissance de l'ancien Joseph Bates, qui avait de bonne heure embrassé la foi adventiste et œuvrait activement pour la cause. L'ancien B observait le sabbat et en soulignait l'importance. Je n'en percevais pas l'importance et pensais que l'ancien B se trompait en s'attardant sur le quatrième commandement plus que sur les 9 autres. Mais le Seigneur me donna une vision du sanctuaire céleste. Le temple de Dieu fut ouvert dans le ciel, et l'arche de Dieu me fut montrée, surmontée du propitiatoire. Deux anges se tenaient, l'un à chaque extrémité de l'arche, leurs ailes déployées au-dessus du propitiatoire et leurs visages tournés vers lui. L'ange qui m'accompagnait m'informa que ceux-ci représentaient toute l'armée céleste, regardant avec un respect, empreint de crainte, la sainte loi qui avait été écrite du doigt de Dieu. Jésus souleva le couvercle de l'arche et je vis les tables de pierre sur lesquelles les 10 commandements étaient écrits. Je fus étonné en voyant le 4e commandement au centre même des 10 préceptes, entouré d'un doux halo de lumière. L'ange dit « C'est le seul des 10 qui définit le Dieu vivant qui a créé les cieux et la terre et toutes les choses qui s'y trouvent. » Lorsque les fondements de la terre furent posés, alors fut posé aussi le fondement du sabbat. Témoignage, volume 1, 75.
Lumière oméga du troisième ange.
Ceux qui vivent en communion avec Dieu marchent à la lumière du soleil de justice. ils ne déshonorent pas leur Rédempteur en corrompant leur conduite devant Dieu. Une lumière céleste resplendit sur eux. À mesure qu'ils approchent de la fin de l'histoire de cette terre, leur connaissance du Christ et des prophéties qui le concernent s'accroît considérablement. Ils ont une valeur infinie aux yeux de Dieu, car ils sont unis à son Fils. Pour eux, la parole de Dieu a une beauté et une douceur incomparables. Ils en voient l'importance. La vérité leur est dévoilée. La doctrine de l'incarnation est auréolée d'un doux éclat. Ils voient que l'Écriture est la clé qui ouvre tous les mystères et résout toutes les difficultés. Ceux qui n'ont pas voulu recevoir la lumière et marcher dans la lumière seront incapables de comprendre le mystère de la piété. Mais ceux qui n'ont pas hésité à prendre leur croix et à suivre Jésus verront la lumière dans la lumière de Dieu. The Southern Watchman, 5 avril 1905.